un podcast France Culture.
Il n'est pas de société sans savoir du corps, et il n'est pas de savoir de la société sans déchiffrement des corps. Ces mots sont ceux du philosophe Michel Foucault. Le corps nous permet en effet de penser l'inscription des individus dans la société et dans l'économie. Or, depuis les années 80, avec la dérégulation des marchés et la montée du chômage, chacun semble incité à devenir l'entrepreneur de son propre corps. Un phénomène social et économique que nous allons examiner jusqu'à 15h. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Pour ce troisième volet de notre série sur l'économie de la beauté, nous avons le plaisir d'accueillir Jeanne Maud Jarton, sociologue, maître de conférences à l'université Gustave Eiffel, chercheuse au laboratoire Analyse comparée des pouvoirs, autrice d'articles sur la pratique du fitness. Également avec nous, et je m'en réjouis, Guillaume Vallée, en duplex de Grenoble, professeur d'économie à l'université Grenoble-Alpes, auteur de La Fabrique du Muscle, paru aux éditions L'Échappée en 2022, une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancet, Anouk Milliot, Laurence Jeanne Pain, Léopold Thiévan et Inès Gender.
Et maintenant, voici, pour commencer votre petite séance donc, de gymnastique élémentaire, des foulées. Sur la pointe des pieds, vous allez courir dans votre appartement en restant bien souple, le dos absolument droit, la tête également très droite, le menton assez près du cou. Belle attitude générale, allons-y. Courez, 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 courez. Décontractez-vous, laissez flotter les bras sur les côtés. Et puis vous levez légèrement les genoux, le droit, le droit, le gauche. Levez très haut les genoux. Et maintenant vous cessez. Vous relâchez vos muscles, vous respirez profondément deux ou trois fois. Respirez bien. Là, c'est parfait.
Bonjour Guillaume Vallée, Jeanne Maud Jarton.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. J'espère que cette petite archive de 1946 vous a mis en jambes. Alors d'abord, il faut rappeler, c'était le sujet du premier épisode de notre série avec Jean-François Amadieu et Oumaya Idrinès, que dans notre société, la beauté, et notamment la beauté du corps, favorise la réussite amoureuse, sociale, professionnelle, Guillaume Vallée.
Oui, parce que le corps est vraiment au centre des interactions. On est dans des sociétés qui fonctionnent beaucoup à partir de l'image qui est projetée. On sait que l'importance des réseaux sociaux est cruciale pour se définir une identité et être catégorisé. Donc cette capacité à projeter une image positive de soi en fonction des normes sociales attendues, en particulier ici liées au corps, va devenir déterminante pour être classée, on va dire, positivement.
Mais notre rapport au corps a évolué, s'est transformé. Le corps a d'abord été considéré comme un outil de travail dont il fallait à ce titre prendre soin, Jeanne Maud Jarton.
Alors effectivement, oui, il y a une différente dimension au corps, c'est-à-dire le corps outil tout simplement parce que il y avait une force physique et une question de performance, ce qui a permis aussi finalement de voir la représentation du muscle évoluer dans notre société aujourd'hui, avec un certain stigmate pour certains sur certaines périodes, et puis une évolution aujourd'hui où finalement on tombe dans un culte du muscle.
Oui, ça c'est intéressant, les muscles étaient mal vus précisément parce qu'ils étaient associés au travail physique, Guillaume Vallée.
Oui, Jeanne Maud l'a bien dit, je pense qu'il faut vraiment relier aussi cette importance du corps avec l'émergence du capitalisme qui a tout d'abord créé l'idée d'un marché du travail où on va pouvoir vendre une force de travail comme si elle serait détachée de l'individu, donc l'idée qu'on va pouvoir valoriser quelque chose qui à la fois nous appartient mais qui est extérieur à notre être va vraiment devenir finalement déterminante, et avec l'industrialisation, c'est vrai que la force physique, l'importance de l'implication des corps dans le processus de production, ce qui avait été très bien décrit par Marx en particulier, notamment dans un sens négatif, va vraiment prendre une place croissante. Et par exemple, au tournant du XXe siècle, fin XIXe, début XXe, c'est vrai que les corps musclés, les corps qui sont associés à cette force physique, sont plutôt associés au milieu ouvrier, alors que par symétrie, ceux qui peuvent se permettre de ne pas travailler, ceux qui peuvent finalement être rentiers, comme les bourgeois, les grands industriels, finalement, ont plutôt des corps qu'on qualifierait aujourd'hui à la limite de l'obésité. Mais justement, l'idée, c'est de montrer que le corps qui ne travaille pas est un corps qui est opulent, est un corps qui fait travailler les autres, et c'est plutôt à l'époque une source de valorisation pour les bourgeois.
Et vous l'avez dit, c'est quelque chose qui change avec l'essor du capitalisme. Le culte du corps est d'abord apparu aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Pourquoi est-ce qu'on commence alors à sculpter son corps, Guillaume Vallée ?
Alors, il y a quand même une influence précédente. En Europe, on avait déjà cette tradition quand même des gymnastiques où l'idée d'améliorer le corps, d'en comprendre les différentes composantes, l'idée de performance avait quand même germé en Europe occidentale, en particulier dans ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Allemagne, bon, la France bien sûr, mais aussi en Suède. Donc, avec l'émigration qui se fait en direction des États-Unis, qui devient de plus en plus l'économie dominante, on va importer ces nouvelles préoccupations autour du corps. Et ça va prendre d'autant plus de résonance aux États-Unis que cette période qui est qualifiée d'ère progressiste américaine, elle est marquée par de grandes transformations. Et ces grandes transformations sont à la fois l'industrialisation, l'immigration et l'urbanisation. Donc dans ce nouveau contexte, les corps se mélangent, les gens se regardent de plus en plus et on a envie véritablement de construire une nation américaine qui est forte. Et c'est dans ce contexte-là que de plus en plus le corps va être vraiment mis au service de ce nouveau projet, comme je l'ai dit. Dans un contexte urbain où la sédentarité commence un petit peu à faire peur déjà à l'époque, dans un contexte urbain aussi où des maladies circulent, voilà, le corps est perçu de plus en plus comme le capital ultime à valoriser.
Oui, les représentations de la beauté commencent à changer, et là où on valorisait la rondeur parce qu'elle était associée à la richesse, on commence à valoriser la minceur, c'est ce qu'a bien montré l'historien Georges Vigarello, Jeanne Maud-Jarton.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, Georges Vigarello, dans son ouvrage « Histoire de la beauté », montre bien finalement comment les normes corporelles évoluent, mais aussi comment certaines parties du corps peuvent être stigmatisées, peuvent être éventuellement valorisées, comme par exemple le port des corsets pour les femmes, hein, ou voilà, avoir une taille fine. Hein, et on le voit aujourd'hui également avec le développement des fessiers ou ce genre de choses. Donc on voit bien que les normes de beauté, et surtout des parties du corps, peuvent à certains moments de l'histoire être stigmatisées et d'autres fois valorisées.
Il ne suffit pas d'être belle, encore faut-il le rester. Les Bluebell Girls du Lido n'ont qu'à traverser en ligne droite les Champs-Élysées pour pénétrer dans ce qu'on pourrait appeler l'usine à beauté. Tout un monde de machines attend ici la femme d'aujourd'hui qui veut garder ou retrouver la silhouette idéale. Cette fameuse silhouette qui donne tant de soucis. La machine à galber les jambes, la machine à affermir la poitrine, la machine à affiner les mollets et les cuisses. 350 centres de ce type fonctionnent dans le monde où l'on pratique méthodiquement la chasse à la cellulite. Paris est désormais un des bastions de cette lutte au finish. Le soleil finira bien par apparaître, et avec lui les robes légères. Alors les Parisiennes ne manqueront pas d'armes pour gagner la bataille de la beauté.
Une archive des actualités françaises de 1965. Après la fin du 19e siècle, le deuxième grand moment de l'histoire de la culture du corps, selon vous, c'est l'après-guerre, Guillaume Vallée. Pourquoi, à cette période, les premières salles de sport et les produits dérivés apparaissent-ils ?
Alors, je dirais qu'il y a deux dimensions importantes dans cette nouvelle phase du capitalisme qui émerge. C'est déjà le fait que des nouvelles générations sont présentes et sont beaucoup moins marquées par le souci de considération uniquement matérielle. C'est ce que le sociologue Ronald Dinglehart après appelait l'idée que ces générations se tournent vers des valeurs post-matérialistes. Donc, on est beaucoup plus à la recherche de satisfaction autour du bien-être, de la santé et de finalement de l'apparence. Donc, c'est un contexte culturel nouveau qui émerge. Et je crois que, notamment aux États-Unis, une industrie très importante va jouer un rôle déterminant dans l'idée de médiatiser de plus en plus un certain idéal du corps, en particulier un corps dénudé qu'on va voir de plus en plus souvent, hommes comme femmes, bon, à différents niveaux, mais c'est l'industrie du cinéma, en fait. Donc l'industrie du cinéma qui vraiment se développe aux États-Unis, en Californie, à partir des années 1940, va de plus en plus jouer sur la valorisation d'un modèle de corps musclé pour les hommes, d'un modèle de corps plus affinés pour les femmes avec certaines parties du corps, comme l'a dit Jeanne Maud, qui sont mises en avant. Et ça va vraiment avoir un impact déterminant pour diffuser un nouvel imaginaire autour du corps.
Oui, la pop culture a vraiment alimenté ce désir d'un corps parfait, Jeanne Maud-Jarton.
Alors effectivement, il y a une valorisation, mais il y a aussi le fait que les corps sont forgés de plus en plus jeunes, et on le voit d'ailleurs avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est-à-dire tous nos jeunes sont sur les réseaux sociaux à regarder les influenceurs, etc. Donc effectivement, il y a des influences qui sont visibles, qui sont structurées au fur et à mesure aussi des effets de mode, avec un certain nombre de pratiques aussi qu'on voit réapparaître chez les jeunes, comme la musculation, où aujourd'hui la pratique du crossfit est pratiquée par des jeunes qui finalement n'auraient peut-être pas fréquenté des salles de fitness ordinaire.
Et donc cette quête du corps parfait s'accentue après la Deuxième Guerre mondiale. Mais le vrai moment de bascule, ce sont peut-être les années 80, Guillaume Vallée. C'est vraiment un moment où le capitalisme entre dans une nouvelle phase et cela va complètement transformer le rapport au corps.
Oui, moi je le considère parce que c'est ce que j'appelle l'émergence du capitalisme des vulnérabilités. Les vulnérabilités renvoient à l'idée que de plus en plus d'individus se situent ou pensent se situer dans une situation de glissement, ce qui signifie qu'on n'est ni exclu ni inclus, mais qu'on a peur de manquer de ressources pour faire face à des crises, à des problèmes, et on voit que les crises sont devenues de plus en plus systémiques, donc c'est déjà une première caractéristique. La deuxième, c'est l'émergence de ce qu'on appelle le néolibéralisme, avec un effacement de l'État, une diffusion de la place du marché comme nouvelle institution fondatrice, et surtout la diffusion d'un nouvel esprit. Vous avez commencé l'émission en citant Michel Foucault, mais c'est ça une des caractéristiques du libéralisme, c'est que penser que c'est par le marché, à travers cette idée d'entreprendre, qu'on va vraiment pouvoir répondre à ces nouvelles vulnérabilités et y faire face. Donc on est dans un contexte à partir des années 1980 où l'idée de responsabilité individuelle se met en place, et responsabilité individuelle par rapport au corps veut dire ayez un projet personnel de développement corporel, c'est par le corps que vous allez vraiment pouvoir lutter face aux différentes vulnérabilités. Donc il se met petit à petit tout en place une nouvelle, un nouvel imaginaire autour du corps où c'est le bon support pour pouvoir s'entreprendre. Et comme le précisait tout à l'heure Jeanne Maud, comme dans toute phase du capitalisme, on a toujours un grand support technologique qui permet de diffuser cet imaginaire. Là, la digitalisation qui s'est petit à petit mise en place et qui constitue aujourd'hui le cœur de nos processus de production a véritablement diffusé cet esprit d'entrepreneuriat autour du corps, développé l'idée que il faut rechercher de la bonne information pour pouvoir produire le corps tant souhaité, et puis il y a toujours un impact de la mondialisation de la culture à travers ces réseaux sociaux qui diffuse et renforce encore plus cet imaginaire.
Et bien pourquoi est-ce que c'est précisément le corps qui fait l'objet de cette tentative de maîtrise face à ces nouvelles vulnérabilités que vous évoquez ? C'est finalement la seule chose sur laquelle l'individu a une certaine prise, Guillaume Vallet ?
Oui, parce que en fait, on va vraiment considérer que la première ressource, et puis finalement la ressource ultime potentielle qu'on va pouvoir mobiliser et transformer en capital, parce que l'idée de pouvoir être valorisé sur un marché devient déterminant, hein, déterminante dans ce nouveau contexte, va devenir centrale, et le corps apparaît vraiment comme cette ressource ultime dont on dispose, qui est malléable à merci, qui va pouvoir être valorisé dans différents types de marchés, et ça, du coup, ça crée un imaginaire qui consiste à ce que les individus vont vraiment donner une importance fondamentale à leur corps pour pouvoir exister dans ce système et se créer un statut.
Bernard Tapie, un nom bien célèbre, un homme d'affaires connu par Mons et par Vaux, qui dirige des tas de sociétés, mais avec une pêche et une forme incroyables.
Alors,
même.
Comment faites-vous?
Bah, d'abord, je suis sportif.
Plein de trucs.
Je suis sportif depuis que je suis grand comme ça. Ouais. Dans le sport, on apprend que l'état d'âme, le mental, l'intelligence, en fait, il est le reflet de l'état de santé de son corps. Et c'est vrai qu'on est triste quand on est malade. Mm-hmm. C'est vrai qu'on est, comme vous, gay quand on est en forme. Et donc, je crois que il est indispensable d'être physiquement bien en forme si on veut être mentalement bien disposé.
Ouais.
Je fais de la préparation en full contact, qui est un sport tonique qui permet de faire partir la pression. Vous savez, les trois quarts du temps, on est un peu bloqué, on s'auto-censure et on n'ose pas faire exploser. Or, je crois plutôt que de prendre une colère sur sa secrétaire, il vaut mieux taper sur quelque chose et hurler sa rage au moment où on en a besoin. Et la préparation au full contact est une préparation comme tous les sports de combat où on apprend à, en même temps qu'on donne un coup, on se libère d'une énergie qui est interne. Ça évite d'avoir des scènes de ménage et d'avoir des collaborateurs qui souffrent.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? Nous poursuivons notre réflexion sur le corps comme capital à faire fructifier. Nous sommes toujours en compagnie de la sociologue Jeanne Maud Jarton et de l'économiste Guillaume Vallet. Alors, vous avez reconnu, entendu Bernard Tapie dans l'émission Gym Tonic avec Véronique de Villèle et Davina Delors sur Antenne 2 le 17 juin 1984. Que vous inspirent ces propos, Jeanne Maud Jarton?
Alors ces propos, alors c'est marrant parce que déjà je les diffuse également pendant mes enseignements. Mmh. Donc voilà, et effectivement on voit finalement Gym Tonic, ça a été aussi une révolution. C'était le sport qui rentrait par la télé le dimanche matin, donc qui rendait aussi, qui était convivial, qui était familial, mais aussi qui a été une révolution par rapport à la pratique féminine, c'est-à-dire avec le générique où on a commencé à avoir des corps dénudés, et Guillaume en parlait tout à l'heure, et là pour la peine c'était des corps nus puisqu'on les voyait se doucher à la fin, nus tenue au générique. Et ce sont des propos finalement qui montrent bien que la question du culte du corps a toujours été présente. Et peu importe chez des politiques ou chez des hommes d'affaires ou ce genre de choses, finalement toutes les classes sociales sont concernées par ce corps, puisque c'est la première chose que l'on voit, et Guillaume le disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la première chose qui rentre en interaction finalement avec les individus, puisque ça rejoint aussi les propos d'Oumaya Idri hein, sur l'apparence finalement. L'apparence, c'est la première chose que l'on constate chez quelqu'un et qui permet aussi de définir ou de prédéfinir son identité.
Et donc, tout le monde est concerné potentiellement par ce culte du corps afin d'être plus performant, même dans des métiers qui ne nécessitent pas spécialement une certaine forme physique, Guillaume Vallée ?
Oui, parce que le message, c'est que c'est l'individu qui a la clé de son existence, c'est à lui de se responsabiliser, comme je le disais tout à l'heure. Et là, l'intervention de Bernard Tapie le confirme bien, parce que derrière ce qu'il dit, il y a la valorisation, pardon, du modèle de l'entrepreneur, hein, qui est une grande figure du capitalisme, comme l'avait déjà dit Joseph Schumpeter. Donc, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va prendre des risques. Donc, ce capitalisme des vulnérabilités et l'entrepreneuriat du corps est indissociable de la mise en valeur du risque individuel. Et puis, c'est quelqu'un qui va pouvoir mériter un retour sur investissement parce qu'il aura entrepris quelque chose de positif. C'est encore une fois ce qu'incarne Bernard Tapie. Vous avez la solution, vous avez cette ressource qui est le corps à votre disposition, et si vous gagnez, vous pourrez en tirer tous les bénéfices personnels.
Mais il y a aussi des secteurs comme l'agriculture dans lesquels on continue à travailler son corps parce qu'il s'agit de rester performant et qu'on va avoir besoin de son corps dans son métier, Jeanne-Maude Jartan.
Alors effectivement, mais le corps, c'est aussi un capital santé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les pratiques, on pratique, et d'ailleurs on voit l'émergence du sport santé, hein, qui est largement visible dans les politiques publiques, etc. Et effectivement, c'est-à-dire c'est un capital santé, c'est-à-dire on sait qu'avoir une pratique, lutter contre la sédentarité et avoir une pratique régulière permet finalement de maintenir ce capital santé. Donc c'est quelque chose effectivement d'essentiel aujourd'hui.
À quoi doit ressembler aujourd'hui le corps masculin selon les critères de beauté contemporains, Guillaume Vallée ?
Alors, par rapport à mes travaux, moi je dirais, alors je vais donner une fourchette un petit peu large, mais pour les individus masculins, d'après mes enquêtes, l'échelle irait de Cristiano Ronaldo à Dwayne Johnson. Je pense que les références ont évolué parce que, justement, on a plusieurs attentes autour du corps. On est moins dans cet état d'esprit qui était caractéristique des années 1980, qui incarnait aussi la lutte Est-Ouest, hein, en matière d'accumulation du capital et de reflet de différents modèles économiques. On est plutôt dans la valorisation d'un muscle qui est certes visible, mais dans un muscle qui est performant, dans un muscle qui est actif, dans un muscle qui est en mouvement, pour justement faire face aux différentes formes de vulnérabilité. Je reviens à l'interview de Bernard Tapie, il fait référence au full contact. Je pense que c'est déterminant aujourd'hui d'avoir cette idée en tête pour comprendre l'émergence et le développement extrême des sports de combat qui permettent justement de rendre actif ce muscle et de pouvoir concrètement faire face à différentes formes de vulnérabilité. Donc voilà, on a une échelle assez large mais qui est en résumé représentative d'une tendance où le muscle est valorisé, il faut qu'il soit quand même volumineux, mais pas trop parce que il faut être en capacité de faire face à des différentes formes d'incertitudes qui pourraient survenir, différentes formes de problèmes qui pourraient survenir. Et de ce point de vue, le muscle doit pouvoir s'adapter.
Et justement, est-ce que le muscle est plus ou moins valorisé selon les classes sociales, Guillaume Vallée ?
Alors, c'est vrai qu'on peut avoir une sociologie des différents types de sports, tout en relativisant, parce que aujourd'hui, il y a un tel engouement autour de ces pratiques sportives, comme je le dis dans mon livre La Fabrique du Muscle, que la mixité sociale, la mixité de genre s'opère largement et que toutes les catégories sociales touchent à tous ces sports, que ce soit des sports crossfit, musculation ou sports de combat. Maintenant, c'est vrai qu'on peut, en affinant un petit peu plus l'analyse, retrouver certaines formes de caractéristiques où on va avoir parfois l'idée que les contacts, notamment les sports de combat, sont beaucoup plus privilégié par les catégories populaires, l'idée que Bourdieu défendait déjà, avec cette idée du rapport de force qui est présent et qui est ressenti plus profondément dans les émotions au moment du contact. Et puis, bien sûr, le fait que le corps capital peut avoir un statut différent. Parce que moi, dans mes observations, par exemple, pour des individus qui appartiennent à la catégorie sociale des ouvriers, il y avait cette idée que la nature du travail professionnel qui finalement manque de sens semble être substitué par une culture du travail du corps qui, sur le plan du processus, ressemble à celle du travail professionnel, mais qui n'a pas les mêmes objectifs parce que le travail est maîtrisé. Et ça, cette substitution, elle est très présente. À l'inverse, des cadres peuvent être attirés par ces pratiques de développement corporel parce que les interactions dans leur travail vont être beaucoup plus présentes. Ils vont avoir le sentiment d'avoir plus confiance à travers ce capital corporel mis en avant. Et donc, c'est plutôt ce que j'appelle le modèle de la complémentarité. Il y a un vrai pont entre le travail professionnel et le travail du corps réalisé à la salle.
Et vous avez évoqué Dwayne Johnson, qui est ce producteur adepte du culturisme. Pourquoi est-ce que aujourd'hui les bodybuilders sont moins valorisés qu'auparavant, Guillaume Vallée?
Ça correspond, selon moi, à mon argument de tout à l'heure. Le corps bodybuildé apparaît trop extrême, apparaît trop finalement porteur de lourdeur dans tous les sens du terme, parce que c'est un corps qui ne peut pas suffisamment être en mouvement par rapport aux contraintes de notre vie aujourd'hui. Et j'inclus ici les contraintes environnementales et les contraintes nutritionnelles, avec le développement des régimes, par exemple, végétariens, véganes, ou l'idée de faire attention à certaines formes de consommation, de viande, etc. Les grands bodybuilders de l'histoire, je prends des classique qui s'appelait Ronnie Coleman, consommait 9000 calories par jour, par exemple. Donc c'est une consommation, un comportement qui peut pas être généralisé, qui peut pas être adapté au monde d'aujourd'hui. Et ce qui est beaucoup plus recherché, parce que justement ces vulnérabilités sont plus présentes et sont de différentes natures, sanitaires, économiques, sociales, il peut y avoir aussi des événements d'agression dans la rue, des éboulements, des choses comme ça, font que ce qui est recherché, c'est vraiment le muscle moins gros, mais en mouvement, qui va permettre de faire une traction rapide, par exemple, pour passer d'une fenêtre à l'autre en cas d'inondation, qui va permettre de réagir en cas d'agression rapide dans la rue. Donc c'est ça qui incarne aussi le physique de Dwayne Johnson, alors qui est quand même très musclé bien sûr, mais un physique quand même qui a une capacité de pouvoir réagir rapidement. Et puis au-delà du muscle, et ça va toujours avec dans l'histoire du corps et du muscle, une personnalité, un charisme très très important. Le corps et l'esprit sont réunis, la personnalité sociale est là. Bernard Tapie le mettait en avant dans son interview, Schwarzenegger a beaucoup joué là-dessus, et Dwayne Johnson fait la même chose dans ses films.
Ce que vous nous dites, c'est que le corps idéal, c'est un corps qui est toujours plus efficace. Jeanne-Maude Jarton, vous avez travaillé davantage sur le corps féminin. À quoi ressemble aujourd'hui le corps féminin idéal?
Alors, je vais faire un peu la même réponse que Guillaume. Ça dépend des tranches d'âge, ça dépend des catégories sociales. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur un corps qui est musclé, effectivement, qui est tonique. Mais derrière la question de la tonicité, il y a aussi, enfin tout au moins, c'est ce qui est apparu dans mes travaux, la problématique de rester tonique pour lutter contre le vieillissement aussi. Donc, c'est un corps, effectivement, qu'on peut utiliser. C'est-à-dire, j'ai travaillé sur les pratiquantes de fitness, les femmes vieillissantes s'inquiétaient de pouvoir garder leur souplesse, de pouvoir garder cette fermeté sur certaines parties du corps quand même, qui étaient plus centrées sur le ventre, les fesses et les cuisses. Donc voilà. Après, aujourd'hui, avec les influenceuses, avec la chirurgie esthétique aussi, hein, qui permet de transformer rapidement son corps sans faire trop d'exercices, même s'il faut l'entretenir, c'est vrai qu'on voit certaines parties du corps qui sont plus bombées, comme les fessiers, effectivement, aujourd'hui, on voit des fessiers beaucoup plus rebondis. La question de la ceinture abdominale, avoir des abdos dessinés aussi, est quelque chose d'important aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on voit des glissements, finalement, entre les questions de féminité et de virilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voir des hommes épilés n'est plus quelque chose de tabou. C'est-à-dire que les hommes vont se faire épiler et ça n'est plus forcément moqué. Et on voit des femmes qui sont dessinées aussi d'un point de vue musculaire, ce qui n'est plus non plus stigmatisé sans partir dans l'outrance des pratiques effectivement extrêmes comme le culturisme ou le bodybuilding.
Et ce que vous nous dites, c'est que ce sont peut-être les différences de génération qui comptent davantage que les différences sociales dans la valorisation de telle ou telle partie du corps, Jeanne-Maude Jarton ?
Ce que j'ai pu observer, moi, par rapport aux femmes que j'ai interrogées, c'est l'aspect santé reste quand même assez important. Par contre, c'est vrai que la préoccupation de la santé n'arrive pas forcément au même âge. C'est-à-dire qu'on constate qu'il y a un certain nombre de femmes, avec l'arrivée à la retraite ou ce genre de choses, qui se reconcentrent effectivement sur leur corps, comme l'arrivée aussi des petits-enfants, c'est-à-dire atteint d'une autre identité, on devient grand-mère ou mamie. Ça amène aussi à réfléchir son corps autrement, c'est-à-dire que certaines femmes, moi, que j'ai pu interroger, disaient qu'elles voulaient garder ce corps ferme et souple pour pouvoir continuer à jouer avec les petits-enfants, par exemple.
Vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop ?
France Culture.
Dans le style petite tranche et gros bras, rien dans la tête ou dans les muscles ?
Entendez-vous l'écho ?
Dans le fond, qu'est-ce que c'est que les muscles ? Quelques grammes de gélatine durcie, placée où il faut.
Tiphaine de Roquigny.
Vous avez évoqué le rôle que jouent les réseaux sociaux dans la diffusion de ces représentations autour de ce que doit être un beau corps, et notamment de ces influenceurs sportifs qui promeuvent le meilleur physique, les meilleurs exercices, les meilleurs produits pour y parvenir, avec des dérives qui peuvent être assez dangereuses. Je pense en particulier au looks-maxing. Guillaume Vallée, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
L'idée, c'est vraiment de reposer sur les réseaux sociaux une image sans cesse comparée à d'autres, et le fait d'avoir des désirs qui sont infinis, parce que ce que veulent les consommateurs de ces contenus, c'est finalement atteindre ce qui est mis en avant sur ces réseaux. Donc en fait, les réseaux sociaux créent toujours une comparaison à un objet, c'est-à-dire ici le corps qui est idéalisé, mais aussi à ce que les autres sur les réseaux sociaux voudraient. Donc c'est un phénomène mimétique qui est de miroir, qui est énorme, qui est mondialisé, et ça c'est source de frustration importante. Donc l'idée d'être toujours insatisfait à travers son corps, l'idée d'en vouloir toujours plus, est devenue constitutive aujourd'hui de cette consommation du corps, et qui peut interpeller en termes économiques certes, mais aussi en termes, je dirais, d'intégration sociale, parce que de participation au bien commun, parce que les individus sont très isolés face à leur téléphone ou à leur ordinateur, pour finalement se comparer en permanence dans ces corps.
Et c'est pour cela qu'on en arrive à des dérives comme celle du look maxing, qui consiste à améliorer son physique, quitte à se fracturer la mâchoire pour qu'elle ait l'air plus carrée. On peut constater, observer des dérives importantes comme celle-ci, Guillaume Vallée.
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, l'idée des réseaux sociaux fonctionne selon le principe où vous allez être valorisé, même économiquement, hein, à partir du moment où vous créez une tendance, à partir du moment où vous avez un certain nombre de followers très importants. Donc ça, c'est intéressant économiquement, parce que plus vous arrivez à capter finalement une demande, plus vous allez pouvoir exister en termes économiques. Mais c'est ce que je mettais en avant dans le capitalisme des vulnérabilités et les liens avec le néolibéralisme. Ça veut dire que c'est la logique du marché qui l'emporte sur la logique finalement du raisonnable, la logique du politique, de la participation. Plus vous pourrez être en capacité de faire le buzz, comme on dit, plus vous pourrez capter la demande, et plus vous gagnerez de l'argent. Donc ça amène, alors certes, à parfois des comportements, on l'a dit, autour du corps, on va mettre en avant la santé, le développement musculaire, etc. Mais à d'autres formes, finalement, de valorisation du corps par ces réseaux sociaux. Il y a aussi une mode où il y a de contre-réaction à ces corps parfaits. Hein. C'était au Danemark, où des jeunes s'étaient fait filmer en évoluant pour devenir obèses, si vous voulez. Donc c'est le même processus, je dirais, technologique et économique qui est à l'œuvre. L'idée étant de faire du buzz et de capter le maximum de consommateurs autour de ces nouvelles tendances.
Oui, et puis là où ça peut être inquiétant, c'est qu'avec les filtres, les effets de montage, les corps sur les réseaux sociaux présentent des normes qui sont parfois absolument inatteignables, Jeanne Maud Jarton.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire finalement, quand vous me posez la question sur qu'est-ce qu'un beau corps, mais même les réseaux sociaux, c'est-à-dire effectivement, on peut, avec le système de filtre, finalement, on peut transformer une image où finalement on ne sait plus vraiment quel est le vrai corps. Donc c'est une problématique. Il y a eu un certain nombre de dérives aussi autour de la minceur, avec les problèmes de challenge A4 que les jeunes filles devaient rentrer dans une feuille A4, leur tour de taille, etc. C'est-à-dire, oui, il y a beaucoup de dérives. Et puis, il y a des dérives aussi avec la chirurgie esthétique, avec éventuellement la prise de produits aussi pour prendre en masse musculaire ou ce genre de choses, qui ne sont pas contrôlées finalement. Et la question qui se pose, c'est aujourd'hui, via les réseaux sociaux, il y a aussi la rapidité des effets de mode, où finalement, avant, ça passait par la presse, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que le fait de lancer des modes, et on voit bien que l'accélération des choses dans le rapport que les jeunes peuvent entretenir à leur corps.
Avec ce phénomène social autour du culte du corps, vient toute une économie. On continue à en parler juste après ça. I want myself.
Some strong man to hold on to.
I Want Muscles, Diana Ross sur France Culture, d'Entendez-vous l'écho, le corps, un capital à faire fructifier. C'est notre sujet aujourd'hui. Jeanne Maud-Charton et Guillaume Vallée sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch avec l'aide de Denis Forget et mise en onde par Alex Dang.
Moi, j'ai jamais souffert vraiment parce que j'adore ce sport. Quand on aime quelque chose, on ne souffre pas. Hein. On a beaucoup de miroirs. Dans une salle culture physique est basée sur le miroir, dans le sens que nous sommes des sculpteurs qui sculpte la matière c'est nous-mêmes. Donc il faut avoir des miroirs pour pouvoir voir le travail qu'on a accompli. Pas dans le sens disant péjoratif, comme on dit souvent, narcissisme, etc. Je suis le plus beau. Non, au contraire, on regarde le miroir pour dire, bon, voilà les défauts, il faut arranger ce point, etc. C'est une souffrance qu'on aime, quoi.
Voilà l'ancien champion du monde du culturisme, Serge Nubret, dans les Nuits magnétiques sur France Culture en 1968. Alors comment cultiver son corps pour le rendre le plus beau et le plus performant possible? En faisant de l'exercice d'abord, évidemment. Ainsi, les salles de sport se sont multipliées ces dernières années. Que représente aujourd'hui ce marché, Jeanne Maud-Charton?
Alors effectivement, les salles de sport se sont largement démocratisées avec différents formats. Aujourd'hui aussi, on voit le coaching à domicile arriver, ce qui externalise finalement cette pratique de remise en forme. Ça présente un marché très très important aujourd'hui qui finalement touche tous les publics.
Un Français sur 11 a un abonnement à une salle de sport.
Tout à fait, un Français sur 11 avec aussi une massification et une démocratisation de la pratique du crossfit qui est une autre forme de pratique que le fitness. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ces salles de sport, on a vu l'émergence finalement des salles low cost aussi apparaître. Et puis un marché aussi des salles de remise en forme qui permettent de s'inscrire dans un réseau professionnel. Et également finalement une typologie de salles qu'on va appeler luxe avec des prestations aussi particulières.
En 2020, on comptait 4540 salles de sport en France qui réalisaient un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros. Les salles de sport se multiplient, elles se diversifient et elles sont de plus en plus technologiques, Guillaume Vallée.
Oui, c'est tout à fait ce que disait Jeanne Maud. L'idée, c'est de correspondre à toute cette diversité de demandes, attirer de plus en plus de clients. Alors, vous pouvez toujours avoir des salles spécialisées autour du culturisme, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des îlots. On va pouvoir faire de la musculation, d'autres, on va faire du cardio, certaines parties qui seront plus consacrées à des cours de sport de combat. Donc, finalement, le fait que tout le monde puisse s'y retrouver d'une manière ou d'une autre élargit le spectre et permet de capter de nouveaux adhérents, ce qui est vraiment nouveau à l'échelle de la France, hein, parce que on avait vraiment vu un boom ces dernières années. Hein, vous citiez le nombre de salles qui existent ou les abonnements des Français, mais il y a une croissance supérieure à 10% chaque année de ce nombre d'adhésions. Alors après, bon, est-ce qu'il dure ou pas, il faudrait regarder à plus long terme, mais il y a quand même une tendance nouvelle de marché autour de ça. Et comme le disait Jeanne Maud, la nouveauté liée à la technologie de cette forme de capitalisme, c'est vraiment de pouvoir proposer des services nouveaux à domicile, en ligne, pour accompagner finalement ses clients et jouer sur la continuité de la pratique.
Des salles qui visent toutes les catégories sociales. Vous évoquiez les salles low cost qui proposent désormais des espaces de musculation, mais il y a aussi des salles de sport premium qui cherchent à attirer les clients avec les codes du luxe, Jeanne Maud-Charton.
Oui, effectivement. Alors, tout au moins en Île-de-France, on en voit un certain nombre se développer avec finalement des prestations que on ne retrouverait pas sur des pratiques, sur les salles low cost. Il y a tout ce qui est aussi lié à la coiffure, c'est-à-dire dans les piscines, etc., avec toute la dimension bien-être également, après l'effort physique finalement, on voit effectivement un certain nombre de salles se structurer, et puis des salles aussi de réseaux professionnels, parce que finalement le sport c'est aussi un lieu convivial, la salle de sport c'est aussi un lieu convivial, où on peut y rentrer par cooptation entre personnes qui se connaissent.
Et alors sur quoi repose le modèle économique des salles de sport, Guillaume Vallée? Parce qu'au départ, les coûts fixes sont assez importants, il faut pouvoir acheter les machines.
Oui, il y a un coût fixe qui est important. La salle peut être grande et il y a ces machines qui coûtent cher à l'achat, ça c'est certain. Mais le fait que les salles low cost se soient développées a aussi permis d'économiser énormément en frais de personnes qui travaillent dans ces structures. Donc en fait, le modèle, c'est vraiment de proposer un service continu, flexible pour les individus en termes d'accès et par la suite de proposer des services potentiels mais qui sont payants pour justement accompagner les clientes et les clients. Et c'est là un petit peu le modèle qui est trompeur pour beaucoup de personnes qui y travaillent, parce que vous avez en même temps une offre qui est de plus en plus importante sur le marché du travail chez les jeunes, qui pensent que justement des métiers autour du corps sont faciles d'accès pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, cette ressource qu'on va pouvoir facilement transformer en capital. Le coût d'entrée paraît faible parce que cette ressource transformable en capital est à disposition. Si on veut proposer ces services en ligne, le coût est très faible pour pouvoir poster quelque chose. Donc vous avez une offre très importante sur le marché du travail qui existe. Et les salles, qui finalement sont peu nombreuses en termes de groupes industriels, vont profiter de cette main-d'œuvre abondante pour limiter son utilisation, pour la mettre en concurrence et faire en sorte de développer un nouveau rapport salarial dans lequel finalement ces individus travaillent leur compte, mais sont en fait dépendants de structures beaucoup plus grosses et sont exploités.
Et alors les adeptes du fitness, le nombre d'adeptes a explosé. Et puis depuis une vingtaine d'années, il y a, vous l'avez évoqué, ce nouveau sport qui s'impose, le crossfit.
C'est le côté communautaire, le côté vraiment ludique de l'activité qui fait que ça a vite pris, quoi. Alors c'est vraiment la nouveauté en elle-même et surtout l'efficacité de la méthode, quoi. Tu peux interroger n'importe qui ici, tout le monde a eu un changement.
3, 2, 1, ok, récup.
J'ai commencé, j'avais jamais fait de sport de ma vie. J'ai été très lourd, en souplesse zéro, avec de l'effort tous les jours, en venant, en travaillant. Il y a une perte d'approximativement 40 kilos. Je trouve que c'est plutôt positif quand même.
Alors j'ai commencé le crossfit à l'âge de 47 ans. Là il y a quand même un entraînement, il y a un effet de masse qui se fait et il y a un petit esprit de compétition qui fait qu'on est tiré vers le haut et qu'on essaie d'aller le plus loin possible.
J'avoue que la première semaine ça a été assez dur, physiquement parlant. Mais après on a tout de suite envie d'y revenir parce que c'est addictif.
Bien joué, félicitez-vous, congratulez-vous.
Un reportage de France TV Sport du 31 janvier 2016. Alors le crossfit, c'est ce sport qui combine l'athlétisme, le cardio, la gymnastique et la musculation. Crossfit, pourquoi ? Parce que cross, on croise les disciplines. Pourquoi ? Comment expliquer que le crossfit rencontre un tel succès, Jeanne Maudjarton ?
Alors, je pense qu'il y a un aspect finalement convivial et communautaire, c'est-à-dire contrairement à la salle de fitness où on peut venir pratiquer côte à côte sans forcément se parler, etc. Il y a un aspect communautaire. Il y a aussi une culture CrossFit hein, qui est largement développée. Et puis il y a une prise en charge globale finalement du corps, c'est-à-dire tout à l'heure Guillaume parlait des régimes alimentaires, etc. Effectivement, c'est-à-dire il y a une culture CrossFit qui est largement développée. Et puis c'est bien dit dans l'extrait que vous avez présenté, c'est-à-dire l'aspect challenge, l'aspect compétition finalement fait qu'il y a une adhésion et puis c'est aussi une pratique qui est assez intergénérationnelle dans laquelle on peut rentrer à n'importe quel âge finalement.
Et mixte également.
Et mixte également, voilà.
Guillaume Vallée ?
Oui, je pense que ce qui est important, c'est que de comprendre le modèle, je dirais, à la fois économique et social derrière le crossfit. Parce que pour moi, le crossfit correspond vraiment à mes explications de tout à l'heure. C'est un sport, et son fondateur Greg Glassman le mettait bien en avant dans les années 1970, c'est un sport qui permet vraiment de pouvoir utiliser le muscle pour lutter contre des vulnérabilités. Le muscle, on le développe, le muscle est mis en mouvement, et tout ça se fait dans un esprit à la fois d'équipe, mais de compétition. On va être motivé, on va pouvoir s'entraider, mais en même temps, on va pouvoir finalement se dépasser et cultiver la performance. Et ça parle bien pour les personnes dont je citais la catégorie tout à l'heure, donc c'est-à-dire plutôt les cadres, où on est pleinement dans le modèle de la complémentarité. Cette performance au moment de l'entraînement rappelle celle du milieu professionnel, et c'est vrai que cette pratique est très populaire chez ces personnes-là aussi pour cette raison. Et puis enfin, puisque je parlais du modèle économique, n'oublions pas que le crossfit a aussi largement essaimé et a permis véritablement d'enrichir ses fonds. Fondateur, parce qu'il fonctionne selon la logique de la franchise. En fait, vous avez des box qui ont le droit d'utiliser ce nom-là avec tous les bénéfices associés, certes, pour leur propre compte, mais qui reversent une partie aux fondateurs du modèle, un petit peu, je dirais, comme les McDonald's, hein, ou pour s'en désoler de citer un nom, mais voilà, on crée une entreprise, celle-ci est franchisée, et ensuite on peut essaimer beaucoup plus facilement à travers le monde. Donc c'est aussi un modèle économique très performant qui correspond bien à cette nouvel esprit d'entrepreneurial qu'on voit essaimer aujourd'hui.
Oui, il y a ses fondateurs qui en profitent, l'Américain Greg Glassman qui a fait fortune, et puis il y a toutes les marques d'habillement sportif qui ont su surfer sur cette vogue du CrossFit, Guillaume Vallée.
Oui, parce que ce qui est mis en avant, et je reviens aussi à la citation tout à l'heure de Serge Nubrel, l'ancien champion de bodybuilding, c'est vraiment de comprendre que dans notre capitalisme, encore plus peut-être dans le capitalisme des vulnérabilités, cette idée que c'est nous-mêmes qui avons la clé, cette idée que c'est par nos actions qu'on s'en sortira, tout ça est médiatisé par l'importance du travail. Donc quand Serge Nubret parlait de la douleur associée au travail, c'est non seulement une douleur qu'il faut accepter, mais c'est une douleur qu'on recherche. Donc tout ce qui va pouvoir être mis en avant en mettant en scène le fait du travail, de la performance, de la souffrance et l'idée qu'on appartient à une communauté qui se rassemble autour de ce travail-là va vraiment être valorisé. Et c'est là qu'on voit se développer tout le merchandising autour des t-shirts, des vêtements, des gourdes immenses qui rappellent cette puissance autour du projet corporel, cette importance du travail à la salle qui a été valorisée. Tout ça fait vraiment partie de la culture aujourd'hui qu'on voit de plus en plus se développer en France.
Oui, avec le CrossFit, c'est tout un mode de vie qui est proposé et cela suppose donc toute une économie, Jeanne Baudjarton.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, il y a effectivement les régimes alimentaires, il y a aussi le prix aussi, hein. Des abonnements dans ces salles, enfin dans ces box, ce qu'on appelle les box, qui sont pas du tout les mêmes que les salles low cost.
C'est beaucoup plus cher qu'une salle de sport classique.
Oui. C'est beaucoup plus cher, mais après la prise en charge n'est pas non plus la même, sur l'assiduité non plus, ça nécessite pas forcément la même assiduité que la salle où finalement on peut parfois se donner bonne conscience à y aller une ou deux fois par semaine. Là, c'est vrai que ce sont des pratiquants qui rentrent dans une autre fréquence de pratique, de par l'aspect challenge, de par l'aspect compétition et de par aussi les résultats finalement obtenus.
Au-delà du CrossFit, le marché de l'habillement sportif et des produits dérivés est aujourd'hui en plein essor, Guillaume Vallée, avec des innovations médicales, technologiques qui sont au service de cette performance du corps.
Oui, je pense qu'il faut avoir en tête l'idée, par exemple, de cercles concentriques. À la base, on a cette salle qui constitue la fabrique du muscle, comme je la qualifie, avec des personnes qui vont finalement consommer du corps à la salle, avec l'aide de coachs ou d'entraîneurs. Donc là, on est vraiment dans le niveau micro, mais de plus en plus, la sphère s'élargit, parce que autour de cette première forme de pratique, vous avez les compléments nutritionnels, vous avez des compléments parfois pharmaceutiques, vous avez les vêtements. Si je prends le cas des compléments nutritionnels, on voit que cette année, on estime que le marché mondial sera valorisé autour de 220 milliards de dollars au niveau de la planète. Donc c'est quand même assez énorme. Et on voit que ce marché est devenu tellement important. Pourquoi ? Parce que ça renvoie à ce que disait aussi Jeanne Monde tout à l'heure. C'est, la santé est devenue très très importante et je dirais plus dans le sens de l'apparence même de la santé. Puisqu'on fonctionne beaucoup par les interactions et par la catégorisation facile, le fait de pouvoir mettre en avant une image positive de soi à travers ce qu'on incarne, un certain corps, une certaine attitude associée au corps, on le disait tout à l'heure à travers le CrossFit, ces éléments-là sont devenus déterminants. Donc les individus sont prêts à mettre de l'argent autour de cette possibilité de concrétiser leur projet corporel.
France Culture. Entendez-vous l'écho.
Le mec parfait, zéro défaut. I'm pretty. Yeah, mon ego, je le vaux. Bien parce que je suis le plus beau. Muscule, abdos, fessiers, mon cul, je l'ai mérité.
Tiffaine de Roquigny.
Peut-on devenir l'entrepreneur de son propre corps ? C'est l'objet de notre discussion aujourd'hui avec la sociologue Jeanne Baudjarton et l'économiste Guillaume Vallée. Alors l'investissement sur le corps passe par le sport, il passe aussi par la chirurgie esthétique, à tel point qu'on a vu se développer un tourisme du corps, Guillaume Vallée.
Oui, c'est une des formes du capitalisme d'aujourd'hui. Dans son histoire, le capitalisme a toujours été marqué par une certaine forme de division internationale du travail entre des entreprises, des pays pour participer à l'accumulation du capital. C'est aussi le cas aujourd'hui où vous avez des pays qui vont proposer des spécialités autour de cette production facile, on va dire, du corps. La Serbie propose par exemple des possibilités de chirurgie autour dentaire. Et quand je dis chirurgie dentaire, c'est pas simplement un aller-retour pour effectuer cette opération, c'est tout compris, c'est-à-dire un séjour à l'hôtel, des visites de la ville en question, plus ensuite la fameuse chirurgie esthétique. Le Maroc est aussi spécialisé dans certaines formes d'implantologie. Le Brésil, historiquement, est dans la même veine, connu pour produire justement aussi ces corps marqués par la chirurgie esthétique. Donc on a une véritable division du travail sur la chirurgie esthétique, mais qui existe aussi dans la fourniture, par exemple, de certains produits. La Nouvelle-Zélande produit beaucoup de protéines de petit lait, par exemple, qui est très prisé par les sportifs. Donc, c'est toute une économie, en fait. Ça, c'est très important, à mon avis, de le rappeler. Enfin, l'émission est consacrée à ça, mais c'est pas qu'un épiphénomène. C'est devenu une pratique de masse parce qu'elle est aussi mondialisée à travers la digitalisation aujourd'hui, qui renforce cette demande autour du corps et de tous ces produits et consommations associées.
Sur ce tourisme lié à la quête du corps parfait, Jeanne Maugerton, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous avez peut-être envie d'ajouter?
Alors, Guillaume l'a bien expliqué. C'est-à-dire, il y a aussi finalement pourquoi est-ce qu'on va se faire opérer à l'étranger, etc. C'est aussi parce que finalement il y a des pratiques aussi qui sont peut-être moins encadrées ou tout au moins moins contrôlées. Une accessibilité aussi en termes de tarifs. On a vu aussi un certain nombre de choses évoluer effectivement avec tout ce qui est compléments alimentaires. Qui sont arrivés finalement comme la créatine, où on en entendait parler finalement plus dans le sport de haut niveau, ce genre de choses, où finalement maintenant des jeunes prennent des produits, des substituts pour prendre de la masse musculaire ou ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'on voit finalement que le corps occupe finalement une place centrale. Et puis il y a aussi les influenceurs, où finalement les réseaux sociaux font que ça lève les frontières également.
Oui, mais alors, il y a cette injonction à investir le corps, à le considérer comme un capital, mais tout le monde n'a pas les moyens de le faire. Ça suppose du temps et de l'argent, Guillaume Vallée.
Oui, c'est un petit peu le paradoxe d'une part, et puis la particularité de ce capital d'autre part. Le paradoxe, c'est que produire le corps, si on divise un petit peu le processus, mais produire le corps, ça prend extrêmement du temps, c'est très long, c'est très frustrant, c'est très ascétique, limite monacal, hein, quand vous regardez le type d'entraînement ou les régimes qui sont suivis par les grands champions, c'est quelque chose de vraiment dur, parce qu'il faut se priver, il faut s'entraîner, il faut accepter la douleur, on l'a dit, donc ça prend beaucoup de temps. Et puis d'un autre côté, on est dans une société de consommation, justement, la consommation du corps, elle est marquée par des désirs permanents, des désirs infinis quasi, hein, comme on l'a dit avec l'influence des réseaux sociaux. Donc ça crée beaucoup de frustration et pour parfois faire réunir production et consommation du corps, c'est là que malheureusement certains individus peuvent chercher des solutions rapides comme le dopage qui à court terme va permettre de réduire la distance entre les deux mais va créer des effets négatifs. Et puis deuxièmement, comme je le signifiais tout à l'heure, le capital en question est aussi particulier parce que c'est un capital labile, il va se détériorer au fil du temps, qu'on le veuille ou non, donc il faut vivre avec cette forme d'angoisse d'une certaine manière, et puis c'est un capital qui est non transmissible. Oui, elle a sans doute une influence génétique sur les enfants par exemple, mais elle est très limitée et pas forcément automatique, et puis après chacun décidera de la vie qu'il veut entreprendre. Donc ça peut aussi créer des situations où l'individu va percevoir le corps comme la seule solution dans sa vie et tout considérer autour de ça, et c'est là que des dangers apparaissent.
Oui, et puis quand on ne parvient pas en effet à obtenir le corps que l'on désire, il est tentant de se tourner vers des produits illégaux, comme Jackie dans le film Bullhead de Michael R. Kosman.
Ok, ça c'est du sustanon. Sustanon. Mais du vrai sustanon, hein, pas un dérivé fait en Pologne ou en Russie. Tu me suis? Combien t'en veux? Combien? 250 mg? Il faut piquer directement dans le muscle, ok? Alors testoviron, c'est ça que tu m'as demandé, non?
Non, pas ça.
Non ? Mestanolone, c'est très agressif. Sinon, j'ai d'autres dérivés aussi, style DHT. Pas BHV, hein, mec.
Non.
Bon, la mestanolone, 10 à 30 mg par jour. 30 mg maximum, ok ? Et pas d'alcool avec ça. J'insiste, hein, mais c'est sérieux. Non, si tu prends de l'alcool avec ça en une semaine, t'as plus de foie, c'est fini. Hein. Je suis désolé, mais on se connaît pas, faut bien que je t'explique un peu.
Et ça ?
Ah, ça. Bon. C'est du méthyltestostérone, ça, tu connais ? Méthyltestostérone. Chez nous, on appelle ça en gros calibre. Bazooka. C'est extrêmement dangereux. Je donne pas ça à tout le monde, moi. Tu comprends? Je prends des risques avec ça. Ok?
Un extrait de Bullhead de Michael Roskam qui est sorti en 2011 et qui a reçu l'Oscar du meilleur film international. Mathias Schoenaerts y campe un petit éleveur de Flandre dopé à la testostérone. Quels peuvent être les dangers des stéroïdes qui sont donc consommés pour développer sa musculature, Guillaume Vallée?
Vous avez des effets biologiques qui vont affecter le foie dans sa capacité à assimiler ces produits, comme c'est indiqué dans l'extrait ici. Chez les hommes, vous avez paradoxalement des effets dévirilisants, parce que en fait, la testostérone en particulier va envoyer le signal à votre cerveau que vous avez déjà une certaine dose de testostérone dans le sang, donc vos testicules ne produisent plus de façon endogène la testostérone, et vous avez une atrophie testiculaire qui est parfois irréversible. Donc beaucoup d'effets secondaires autour de ça. Chez les femmes, c'est aussi des effets virilisants, par exemple, hein, donc voilà, des effets secondaires très marqués. Et puis sur le plan social, finalement, ces produits-là peuvent renforcer votre dépendance à votre corps, donc vont avoir tendance à accélérer ce facteur d'isolement qui, sur le plan social, devient très problématique. Et c'est là qu'on peut tomber dans des phénomènes d'agressivité, dans des phénomènes de dépression, dans des phénomènes malheureusement de suicide, où voilà, les effets indirects de ces produits apparaissent.
Est-ce qu'il y a une conscience des dangers que représentent ces stéroïdes parmi ceux qui les consomment, Jeanne Maud-Jarton?
Tout dépend de comment ils sont consommés. De toute façon, enfin, on est dans une société de performance et nous avons tous des conduites dopantes, rien que par le café, quand on a un petit coup de mou entre les réunions ou ce genre de choses. Après, oui, il y a une prise de conscience, mais je pense qu'il y a un basculement pour les personnes qui prennent ces produits, où finalement, c'est comme pour les sportifs de haut niveau qui se dopent. C'est-à-dire, tant qu'il y a les résultats, etc., finalement, il y a aussi la trait de ce gain de performance qui peut-être devenir une addiction et qui peut faire oublier ou tout au moins amenuire justement la conscientisation des risques de prendre ces produits sur le long terme.
Oui, des risques qui peuvent être aussi des altérations neurocognitives. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans cette valorisation extrême du corps, Guillaume Vallée, dans l'économie de la connaissance qui est la nôtre, où on valorise particulièrement les capacités cognitives?
Oui, parce que en fait, c'est un paradoxe apparent, mais le corps, il est toujours mis en scène quand même dans les interactions, et on fonctionne beaucoup avec l'idée de catégorisation rapide, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc qui va être important dans des situations de discussion, dans des situations finalement où on va devoir se mettre en scène, de chercher à projeter cette image positive, parce que on est dans des sociétés qui valorisent la compétition, la performance, donc tous les facteurs qui vont accentuer cette possibilité de se valoriser, de se constituer ce capital, vont être bon à prendre. Donc le corps est vraiment l'outil principal, malgré le fait qu'on fonctionne beaucoup dans une société de la connaissance, comme vous l'avez dit, mais pour vraiment accentuer cet effet de valorisation, cet effet de halo autour de soi, et le corps ne disparaît pas.
Alors il y a toute une partie de la société qui embrasse cette idée d'un corps comme capital, mais est-ce que vous observez des phénomènes de résistance, Jeanne Maud-Jarton ?
Sur concernant le corps, oui, il y a des résistances. C'est-à-dire, on voit sur la problématique de l'obésité, par exemple, on voit un certain nombre de mouvements qui pensent que la question de l'obésité est qu'une question d'esthétique, et qui prônent, et Guillaume en a parlé tout à l'heure, avec des challenges sur le fait de voir le corps devenir obèse, etc. C'est-à-dire, il y a des résistances par rapport aux normes, finalement, qui sont dictées, qui sont valorisées, de façon aussi à se différencier, mais finalement ça reste une mise en scène du corps sur des extrêmes qui ne sont peut-être pas la norme attendue, mais tout cela finalement est lié aussi à l'identité des individus, et les résistances se font finalement par la mise en scène. Et d'ailleurs, dans les challenges de prise de poids, etc., on voit bien les avant-après, et donc il y a bien une mise en scène et un glissement pour montrer finalement cette résistance aux normes qui sont imposées.
Et est-ce qu'il n'y a pas des résistances qui ne seraient pas des mises en scène justement, et qui consisteraient simplement à laisser le corps tranquille, Guillaume Vallée?
Oui, mais c'est important ce que dit Jeanne Maud, parce que on sait, on peut laisser le corps tranquille, on peut mettre en scène d'autres formes de corporéité. Et c'est quelque chose qui est mis en avant dans notre société, mais à condition de rentrer dans un certain nombre de normes qui sont quand même très fortement rigides. Jean-François Madieu l'avait très bien mis en évidence, et je pense que c'est la réalité, parce que le corps, dans sa liberté, dans sa diversité, est toléré à partir du moment où il correspond malgré tout aux attentes d'un système. Et ce qui reste aujourd'hui, même dans la société de la connaissance, c'est quand même un corps qui va symboliser la performance, un corps qui va symboliser le fait d'être présent au travail, d'être engagé pour une cause, c'est-à-dire pour son entreprise, et seuls certains corps y répondent, en tout cas dans notre imaginaire. Et ça, on le voit très très bien dans les enquêtes réalisées au moment des entretiens d'embauche, par exemple, hein, où tous les corps ne se valent pas sur le plan économique, donc on reste marqué par cette dictature, d'une certaine manière, autour des attentes corporelles.
Donc résister, ce serait... C'est ce que vous nous dites, s'exclure de la vie sociale, de la vie professionnelle.
Oui, parce que en fait, le corps, quand je parlais tout à l'heure d'apparence de la santé, en plus de l'image physique qui renvoie immédiatement, indirectement, il renvoie à l'idée d'organisation, de quelqu'un qui est prêt à travailler, quelqu'un qui est prêt à accepter des sacrifices, la douleur, la performance. Et ces valeurs-là demeurent aujourd'hui au sein du monde du travail, sont classantes au sein du monde du travail.
On arrive au terme de cette passionnante discussion. Un mot de conclusion, peut-être, Jeanne Maud-Gerton, sur ces normes qui restent effectivement très fortes autour du corps qui doit être un corps beau, qui doit être un corps musclé, mais pas trop musclé non plus, et peut-être autour de cette économie du corps parfait qui accompagne ces injonctions.
Le corps est le premier vecteur d'identité qu'on rencontre les individus. Donc, ce qu'il faut réfléchir, c'est finalement comment être bien, dans sa tête, être bien aussi dans la société. Et après, il appartient à chacun finalement de prendre soin de son corps en fonction de ses attendus et peut-être prendre un peu aussi de recul par rapport à des idéaux. Mmh. Et peut-être que la question du bien-être, être bien dans sa tête, est quelque chose d'important. Important à valoriser aujourd'hui.
Guillaume Vallée.
Oui, je suis d'accord. Et pour concrétiser cette idée, je pense qu'il est important que les individus n'aient pas que leur capital corporel comme source de valorisation. Le capital familial est très très important, voire le plus important, en tout cas dans mes travaux, c'est ce que j'avais pu mettre en évidence. Le travail, le capital, pardon, amical, la sociabilité l'est aussi, d'autres formes de capitaux. Bref, l'idée, c'est d'avoir une identité multiple. Et voilà, on est dans des sociétés qui individualisent beaucoup, on est dans des sociétés où les individus sont placés au centre et comme étant au cœur de leur propre vie. Donc il faut faire attention à ce que tout ça ne dérive pas en termes d'inégalité. Et indirectement, notre rapport au corps pose aussi la question des politiques publiques, du rapport à l'État, la capacité de cette institution à proposer finalement une égalisation collective de notre rapport au corps. Et je pense beaucoup ici au programme d'éducation physique et sportive à l'école. Je pense qu'il serait peut-être intéressant de réfléchir à d'autres formes de sport, en tout cas de revenir par exemple aux fondamentaux des arts martiaux où on apprend le corps en mouvement, on apprend le corps dans sa complexité, dans son rapport à l'espace, dans son rapport aux autres. Et finalement, pour revenir sur une expression en aïkido, l'essentiel c'est pas de briller mais c'est de durer. Je pense qu'on a oublié ça un petit peu aujourd'hui et c'est ce qui fragilise le corps et permet justement malheureusement d'entrer dans un monde où les inégalités autour du corps risquent de constituer les inégalités du futur.
Eh bien merci pour ce mantra final et merci beaucoup de nous avoir éclairé sur tous ces enjeux sociaux, économiques autour de ce culte du corps. Merci Jeanne Maud-Gerton et Guillaume Vallée. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages La fabrique du muscle, Guillaume Vallée, qui est paru aux éditions L'Échappée en 2022, et Jeanne Maud-Gerton, il y a des articles sur la pratique du fitness qui peuvent être retrouvés en ligne. On mettra toutes les références sur la page de l'émission. Un grand merci également à Gérard Coste de France Bleu Isère qui a assuré ce duplex.
Yeah.
C'est la fin d'Entendez-vous l'écho, et on se quitte avec Lover's War, le nouveau titre du groupe parisien Kids Return qui est sorti le mois dernier. Demain, c'est le regard économique de la photographe Tina Modotti qui va nous intéresser. Nous serons en compagnie de Gérard de Cordance et Eugenia Palieraki. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.
Culture, l'esprit d'ouverture.